Alléluia, tout nouveau, une année nouvelle. Alléluia, Dieu est merveilleux. Mesdames et Seigneur, avant de commencer mon live, nous allons d'abord danser. Alléluia, Dieu est merveilleux. Nous allons nous échauffer, le temps que les gens se connectent. Donc, nous allons danser sur cette louange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis ta position là-bas, danse.
C'est notre saison. Une nouvelle ère commence, les cieux s'ouvrent, une page se tourne, une couronne se découvre. Regarde derrière, vois tout le chemin qui t'a porté hier, qui te tient la main. Chaque larme versée, il l'a compté. Chaque nuit traversée, il t'a gardé. Tu es encore debout, tu respires encore. C'est la folle vivante, tu es ton trésor. Alors lève tes mains, ouvre ta bouche.
Yeah.
On avance avec la foi.
Rien ne
peut nous arrêter. Quand
Dieu est là, rien ne peut nous arrêter. L'année de la gloire.
On écrit une nouvelle histoire.
Avec Dieu, on avance.
On laisse le passé derrière nous ce soir.
Yes.
Les échecs, les douleurs, les mauvais souvenirs. Je fais toutes ces choses nouvelles.
Tu entends?
C'est une nouvelle saison.
Yeah.
C'est un nouveau printemps. Oh, les portes fermées. Les montagnes vont bouger quand tu cries par la foi. Et les bénédictions
bleues, reçois-les
maintenant. Ouvre grand tes bras,
accueille ton
temps. C'est l'année de la gloire. On écrit une nouvelle histoire.
Avec Dieu, on avance, on entre dans la danse.
Cette saison, les captifs seront affranchis. Cette saison, les cœurs brisés seront restaurés. Cette saison, les rêves perdus seront réveillés. Reçois ta guérison.
Je reçois. Reçois ta provision. Reçois ton abondance.
Je déclare sur ta vie.
Je déclare sur ta maison la paix qui domine. Tu es béni en entrant, béni en sortant.
Tu es la tête et non la queue.
Tu es la tête et non la queue. My God.
Avance. Avance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est avec toi. Il est pour toi.
C'est l'année de la gloire. On écrit une nouvelle histoire. Avec Dieu, on avance. On entre dans la danse. Tu es fidèle, 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 fidèle.
Car tu ne changes pas, tu n'es jamais.
Hein? Il est avec toi. Il combat pour toi.
Hein? Chaque jour sera fait. Chaque pas sera un témoignage. Car mon Dieu me remplit de
gloire. Je danse comme David. Sans retenue, tu ne dois rien à personne.
Hein?
Dieu est bon.
Tout le temps.
Shalom, shalom, tonton Alain, que Dieu te bénisse. L'année de la gloire, on écrit une nouvelle histoire. Avec Dieu, on avance, on entre dans la danse.
Yeah.
C'est l'année de la gloire. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Quel bonheur de d'être encore devant votre présence. Alléluia, c'est une nouvelle année. Donc, le ministère des enfants perdus et mon mentor ici présent, Alain Igamba, vous souhaite une glorieuse et heureuse année 2026. Alléluia, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci, recommande ton année à l'Éternel, tel est le thème de mon live aujourd'hui. Alléluia. C'est bien, nous avons fêté, nous nous sommes fait des cadeaux, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle année? Alléluia. Les choses continuent, mais avec le Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi il est important de recommander son année au Seigneur, de prier. Alléluia. Parce que c'est... Qu'est-ce que Dieu nous a laissé? Qu'on puisse être toujours connecté à lui. La prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, nous ne pouvons pas bâtir. Sans la prière, nous sommes perdus. Mais nous ne devons pas rester continuellement perdus. Alléluia. Nous devons nous attacher à ce Dieu qui est merveilleux, qui est glorieux. Ce Dieu aimant, ce Dieu toujours présent. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Accrochons-nous à ce Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, mon thème c'est « Recommande ton année à l'Éternel ». Alléluia. Il est important de rappeler à l'humanité tout entière la prière pour tous que Paul a mis à notre disposition dans 1 Timothée 2, versets 1 à 8 que je vais lire. 1 Timothée 2, verset 1 à lire. Nous allons faire beaucoup de lectures, ce qui est très, très important. Comme ça, je ne sors pas les mots de moi, mais les mots de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous commençons dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 1 au verset 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Amen. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, pour que nous puissions mener une vie tranquille en toute piété et honnêteté, il faudrait que nous prions. Donc, la prière est d'une importance capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes doivent être sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Alléluia. Paul dit, je suis prédicateur, il dit, je dis la vérité et je ne mens pas. Si tu veux écouter la vérité, amen, tu ne veux pas l'écouter, ça c'est ton problème parce que nous ne sommes pas là pour mentir, mais nous sommes là pour dire la vérité et c'est la vérité qui transforme les vies des gens. Alléluia. Et le verset 8 dit ceci, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée. » Il a dit quoi? Pure, sans colère ni mauvaise pensée. Mais le Seigneur, si ton cœur est rempli de rancune, de rapine et tout, et que tu lèves tes mains, tu pries, ça ne va même pas atteindre ton plafond parce que tu n'es pas vrai déjà avec toi-même et on ne ment pas à Dieu. Dieu, il sonde les reins et les cœurs. Donc, il voit que tes prières-là ne sont pas de bonnes prières. C'est-à-dire que tu pries, mais tu n'es pas sincère. Alléluia. Et donc, il ne peut pas répondre à tes prières. Amen. Donc, à partir de là, que l'humanité sache que Dieu a limité la vie humaine à 120 ans. Amen. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon peuple ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est pas chair et ses jours seront de 120 ans. » Amen. Et que la durée moyenne de la vie d'un être humain est de 70 ans. Les plus robustes atteignent 80 ans. Psaume 90, verset 10, dit ceci, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les robustes, à 80 ans, parole du Seigneur. » Amen. C'est pourquoi Jésus recommande aux êtres humains d'être prêts, car ils ne savent ni l'heure, ni le jour, ni l'année, ni la manière qu'ils quitteront cette terre de pèlerinage. Apocalypse 3, versets 2 à 3. Amen. Apocalypse 3, versets 2 à 3, dit ceci, j'ai eu la parole de Dieu avec respect, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Tu ne sais pas à quelle heure, tu ne sais pas à quel moment, tu ne sais pas comment, de quelle manière tu quitteras cette terre. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la prière. Restons concentrés sur la prière. Restons concentrés sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de lectures aujourd'hui. Si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne sera pas averti. Alléluia. On mènera notre vie comme on l'entend. Mais il n'est pas question de ça aujourd'hui. On recommande notre année au Seigneur avec sa parole que nous mettons en pratique. Amen. Pour avoir une bonne compréhension de ce verset, Jésus a utilisé la parabole des 10 vierges dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 et verset 13. Alléluia. Où les prévoyantes ont été sauvées et ont fini par la vie éternelle, et les non-prévoyantes ont été ignorées et chassées et ont connu la mort éternelle. Donc, je vais faire la lecture de Matthieu, chapitre 25. Alléluia. À partir du verset 1 au verset 2. Amen. Matthieu, chapitre 25, excusez-moi. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Voilà, je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 au verset 13. Amen. La parole de Dieu dit ceci, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Vous voyez, il y a des personnes qui sont, comme on dirait, un langage de tous les jours, olé et olé. C'est-à-dire que c'est toujours, on n'est pas prêt, ou bien, bon, c'est pas le moment. Voilà, toujours, c'est pas le moment. Mais quand le moment arrive, ces personnes sont surprises parce qu'elles n'ont rien pris au sérieux. Tout, c'est la rigolade. Non, avec Dieu, c'est pas la rigolade. Il faut être prêt. Tu ne sais pas à quel moment il viendra te chercher. Amen. Donc, le verset 5 dit, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent, alléluia, et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile et nos lampes, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. » Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent et achetez, alléluia, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arrivait. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus leur a dit quoi? Je ne vous connais pas. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on prend les choses de Dieu à la légère, même dans notre vie, notre quotidien, quand tu renvoies toujours à demain, bien quand tu dis, ah bon, je suis fatigué, tu ne sais pas à quel moment quelque chose peut se passer. Alléluia. Que Jésus te dise que je ne te connais pas alors que tu étais là, mais parce que tu étais frivole, et bien, et puis voilà ce qui t'est arrivé. La porte s'est fermée. C'est comme ça, si tu ne pries pas, si tu ne recommandes pas ton année à l'Éternel, les portes te seront fermées. Alléluia. Parce que le verset 13 dit, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Rappelons-nous que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Vous voyez comment notre Dieu est merveilleux. Amen. C'est une révélation importante et une grande nuance. Qu'est-ce que j'ai dit? Que c'était une révélation importante et une grande nuance. Amen. Conscient que le malin ou le mauvais, les géants du mal de ce monde contrôlent les âmes des gens, Jésus cherche à récupérer une brebis parmi toutes ces personnes. Une brebis, alléluia, perdue, afin qu'il retrouve la bergerie. Son plaisir sera grand, sera si grand qu'il a exprimé cela à travers la parabole de Luc chapitre 15 que je veux vous lire. Alléluia. Luc 15. La parole de Dieu dit ceci. La brebis égarée, n'est-ce pas? La parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 15. Amen. Je vais lire la brebis perdue. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui sont malades. Jésus n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Amen. Donc, le verset 3 dit, mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se plaint. Alléluia. Un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose il y a 2 semaines au Gabon, un quartier qu'on appelle Essassa. Il y a eu un accident, mais un accident mortel, mortel. Vous voyez, on ne sait pas à quel moment on va partir. Est-ce que ces personnes avaient donné leur vie à Jésus? On ne sait pas. Est-ce que ces personnes, on leur a parlé de Jésus et ces personnes se sont dit, oui, j'ai le temps, bon, je vais l'accepter, mais pas pour le moment, on ne sait pas. Et voilà que ces personnes sont parties. Il y a peut-être parmi eux, parmi ces personnes qui connaîtront la mort éternelle et d'autres qui connaîtront la vie éternelle, on ne sait pas s'ils avaient vraiment donné leur vie à Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne joue pas avec ta vie. Tu es là, tu peux avoir toutes les richesses du monde, mais n'oublie pas ton salut. Où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Il n'est pas interdit de s'amuser. Il n'est pas interdit d'être riche. Il n'est pas interdit, non. Mais pense à ton éternité. Amen. Donc, il est allé chercher la brebis qui était perdue. Il l'a ramenée. Il l'a festoyée avec ses amis. Et la parole de Dieu dit, bien-aimé dans le Seigneur, que de même, je vous le dis dans le verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Donc, Luc 15, là, j'ai lu la brebis perdue. Vous pouvez lire le fils perdu et le fils perdu. Alléluia. Donc, je vous renvoie à la lecture. Amen. Pour éviter que les humains finissent leur vie dans le feu éternel ou la mort éternelle, il va utiliser la parabole de l'homme riche et le pauvre. Alléluia. Dans le livre de Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin. Alléluia. Et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il se leva, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans les flammes. » Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, les riches oublient qu'il y a la mort. Ils minimisent ceux qui sont dans le besoin. Ils ne les calculent même pas. Mais ils oublient que riches et pauvres, nous avons le même Dieu et que notre Dieu ne fait pas du favoritisme. Il a oublié qu'il n'avait pas donné à manger à Lazare. Il a supplié avant que Lazare aille tremper son doigt dans l'eau pour qu'il puisse se rafraîchir. Mais il est trop tard. C'est de ton vivant, bien aimé dans le Seigneur, que tu prépares ton éternité. Amen. Le verset 25 dit ceci. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a encore, alléluia, il y a entre nous, excusez-moi, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, » maintenant il dit Père Abraham, « d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, on marche par la foi. Si tu ne crois pas de ton vivant, que Jésus est vivant, que Jésus est mort et ressuscité, c'est pas qu'on va maintenant te dire là que tu vas croire. Tu envoies maintenant, il dit d'envoyer Lazare pour aller avertir à ses frères. Si de leur vivant là, lui, quand il était vivant, est-ce qu'il calculait Dieu? Il ne calculait pas Dieu. Maintenant, il veut éviter ça à ses frères, c'est trop tard. On ne va pas te prier pour accepter Christ. On ne va pas te prier pour changer ta mentalité. Tu sais très bien que la voie que tu suis là n'est pas bonne. Plusieurs fois, on est venu te dire de sortir de là, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu meurs, tu t'occupes maintenant de ceux qui sont restés. Non, c'est trop tard. Alléluia. Donc, le verset 29 dit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoute? Alléluia. Lorsque les prophètes parlent, les gens n'écoutent pas. Si un prophète dit toujours la même chose, on dit, mais ce prophète-là, toujours la même prophétie, toujours la même prophétie. Oui, toujours la même prophétie. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas. Donc, Dieu avertit. Un prophète a parlé, vous n'avez pas écouté. Il va aller toucher un autre prophète. Il va toucher plusieurs prophètes. C'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut qu'on change de comportement. Mais vous n'écoutez pas. Vous renvoyez les prophètes parce que vous en avez marre d'entendre la même chose. Mais vous allez subir ce que le riche a subi. Amen. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit non, père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Est-ce que c'est faux? Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour expliquer à ceux qui sont sceptiques, aux insouciants et aux scientifiques, aux philosophes, aux astrologues, médiums, aux obédiences, aux sectes, l'importance de se repentir afin que leurs péchés soient pardonnés par Dieu. Alléluia. Luc 3. Amen. Luc 3, verset 3. Verset 3 à 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Dieu est merveilleux. Donc, je disais, Luc 3, à partir du verset 3 au verset 10, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Voilà. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisé par lui. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et le verset 8 dit ceci, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire pour vous repentir? Ok, donc moi je suis le prophète Jérémie, vous le savez déjà, alors, amen. Donc écoutez ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas là de moi-même, j'ai été mandaté par l'Éternel des armées, alléluia. Donc si vous n'écoutez pas, bien aimé dans le Seigneur, ces paroles, ce message, attendez-vous à vivre la mort éternelle. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut, parce qu'il n'est pas venu juger ou condamner, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Amen. Et avoir comme identité dans la foi Jésus-Christ, Romains 10, versets 9 à 11. Alléluia. Romains 10, beaucoup de lectures, n'est-ce pas? Versets 9 à 11, la parole de Dieu dit ceci. Si je confesse de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Parole du Seigneur. Alléluia. Car selon lui, le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17 dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Vous qui ne voulez pas écouter le message de repentance. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé par quoi? Par la repentance. Amen. Donc, tu ne peux pas accéder au salut sans passer par la repentance. Comment quelqu'un peut dire, je n'ai jamais péché, je n'appelle personne, je ne parle à personne, donc je ne vois pas comment je pêche. Oh, tu peux pécher dans le regard, dans ton cœur aussi tu pêches. L'homme ne sonde pas les cœurs, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Donc, s'il insiste sur la repentance, parce qu'il connaît nos œuvres, il nous connaît. Tu peux ne pas parler, mais tu peux avoir un mauvais regard, tu as péché. Donc, tu dois te repentir d'avoir mal regardé ton frère ou ta sœur. Alléluia. À cause de cela, Jésus est très exigeant envers les humains. Michée 6, alléluia. Michée 6, versets 6 à 8. Michée 6, verset 6 à 8, je lis la parole de Dieu avec respect. Il dit ceci, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que c'est compliqué? Ce que Dieu nous demande se trouve au verset 8. Oh, on te fait connaître, ô homme. Ah, ce qui est bien. Mais tu ne veux pas écouter. Écoute. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais l'humilité ne fait plus partie des enfants de Dieu. Alléluia. On complique les choses, mais voilà, Dieu est clair, net et précis. Si tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde, tu marches humblement avec ton Dieu, mais tu es heureux. Mais tu es heureux. Non, mais toi, tu cherches des complications. Alléluia. Car il punira sévèrement la fraude et la violence. Toujours dans le livre de Michée, à partir du verset 9 au verset 13, je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Verset 9 dit ceci. La voix de l'Éternel crie à la ville. Et celui qui est sage craindra son nom. Écoutez la menace du châtiment et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant le trésor inique? Et un effet trop petit, objet de malédiction. Alléluia. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Écoutez maintenant ce que l'Éternel va faire. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Alléluia. Tu n'obéis pas à l'Éternel, voici ce qui va t'arriver. Tu n'écoutes pas les messages des prophètes, voici ce qui va t'arriver. Parce que le prophète est la bouche, et les yeux, et les oreilles de l'Éternel. Donc, si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu n'écoutes pas Dieu et tu vas mener une vie bancale. Rien de bon ne t'arrivera si tu n'écoutes pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas bâtir sans Dieu, ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir sans Dieu, ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, aux riches, par exemple, il leur recommande ce qui est écrit dans 1 Timothée 6, verset 17 à 19. 1 Timothée 6, verset 17 à 19, je vais faire la lecture. 1 Timothée 6, verset 17 à 19, je lis la parole de Dieu avec respect. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Vous voyez, c'est pas parce que tu es riche que tu dois être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ne mets pas ta confiance dans tes richesses. Mais de les mettre en Dieu. De la mettre en Dieu. Mets ta confiance en qui? En Dieu. Qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, vous qui êtes riche, ne soyez pas orgueilleux, ne vous attachez pas à ces richesses. Parce que lorsque tu es né quoi? Sans rien. Tu partiras aussi sans rien. Donc, si tu peux faire profiter de tes richesses-là aux autres, aux amis, aux parents et tout, c'est une très bonne chose. Mais si à cause de tes richesses, tu deviens une personne imbue, on ne peut pas te parler comme on veut, on ne peut pas te demander quoi que ce soit, tu n'as le temps de personne, ça veut dire que l'orgueil a pris le dessus, ça veut dire que tu es une personne insignifiante, tu n'es rien, tu n'es qu'une pauvre personne. Alléluia. Comme l'ont fait Michael Jackson, Oprah, Sadio Mané, pour ne citer que ceux-là, ils ont fait plusieurs dons aux nécessiteux, aux enfants pauvres conçus des écoles et des hôpitaux. Alléluia. Ces personnes ont fait don de leur richesse aux nécessités. Mais toi, tu as tellement que tu ne sais pas quoi faire de ta richesse, mais tu ne donnes pas. Il faut qu'on te prie pour dire que je sais que vous pouvez, est-ce que vous pouvez m'aider, machin? Tu dis non, tu es orgueilleux. Mais l'orgueil rend vilain. L'orgueil. C'est pas bon. Hein? Dieu t'a fait grâce d'avoir ces richesses. Tu as commencé à dire oui, je me suis levé le matin. J'ai fait ça à la force de mes bras. Donc si j'ai pu être riche, c'est que toi tu peux aussi être riche. Mais une chose que tu oublies, hein, c'est-à-dire que l'intelligence que tu as là, la force que tu as, t'a été donnée par quelqu'un, ça a une source. Et cette source, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Soyons humbles. Alléluia. Amen. Aux autres, Jésus par Paul recommande de travailler selon ce qui est révélé dans Genèse 3, versets 15 à 6, je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 15 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bon. Le verset 16 dit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ça c'est Genèse 3, versets 15 à 16. Où Dieu rappelle qu'il y a plusieurs débouchés pour obtenir un travail. Je vais lire 2 Thessaloniciens 6 à 15. Amen. 2 Thessaloniciens 6 à 15. Voilà, je vous ai dit qu'on aura beaucoup de lectures, donc soyez tout simplement patients. Si vous avez vos Bibles, vous prenez vos Bibles et vous allez voir que c'est merveilleux de lire la parole de Dieu. Donc je disais 1 Thessaloniciens 3 versets 6 à 15, la parole de Dieu dit ceci. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être qu'à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Alléluia. Donc, Dieu rappelle qu'il y a plusieurs débouchés pour obtenir un travail. Soit par l'emploi, soit par des professions libérales, soit par le métier, soit par le commerce, soit par des dons naturels, soit par des dons spirituels. Ensuite, il doit définir les objectifs à moyen et long terme au début de chaque année. Donc, bien aimé, lorsqu'on commence une année, on a des objectifs à définir. Il y a des objectifs spirituels. Par exemple, moi, mes objectifs, c'est quoi? J'ai commencé avec 159 abonnés au mois de septembre, non, au mois d'octobre. Au mois de décembre, nous sommes arrivés à 172. Donc, mon objectif pour moi, c'est d'atteindre les 300 en décembre 2027 par la grâce de Dieu. Et j'ai un autre objectif, ce sont mes deux voyages sur la Côte d'Ivoire et l'île de la Réunion. Alléluia pour l'œuvre de Dieu. Donc, objectif spirituel, baptême de repentance, nouvelle naissance, constitution de la réserve céleste, soit donner la dîme en numéreur ou en nature. Donc, 10% de salaire, soit sous forme de dîme, d'offrande, d'aumône. Alléluia. Voilà. Il y a aussi des objectifs financiers. Donc, de ton salaire ou de ta pension, tu mettras 20% de côté sous forme de tontine ou d'épargne bancaire ou assurance, action dans les entreprises. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir épargner. Tout ça, ça fait partie des objectifs financiers. On ne peut pas commencer une année et puis ne pas savoir ce qu'on fait de nos finances ou bien comment faire pour avoir des finances. Alléluia. Oui, beaucoup me diront, c'est pas facile, je comprends. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on veut acquérir quelque chose, si on veut arriver à quelque chose, on se donne les moyens et on peut se donner les moyens. Amen. Si tu avais l'habitude, chaque mois, il faut que tu t'achètes une nouvelle paire de chaussures parce que bon, c'est la mode. Mais si tu veux épargner, c'est-à-dire que tu ne vas pas t'acheter une nouvelle paire de chaussures chaque mois. Tu vas réduire ou dire que bon, quand celles que j'ai seront abîmées, ben, j'en achèterai. Mais tu ne dois pas dire tous les mois, il faut que je m'achète une nouvelle. Tu veux arriver à quelque chose, tu veux épargner parce que tu veux peut-être acheter un terrain. Mais il te faut faire des réductions sur beaucoup de tes envies. Amen. Donc, il y a objectif professionnel. Tu aspires à quoi dans ton travail? Est-ce que tu veux toujours rester au même poste? Tu veux toujours avoir le même salaire? Donc, il faut une augmentation de salaire. Il faut un changement de catégorie. Alléluia. Donc, ça doit faire partie de tes objectifs professionnels. Et objectif santé. Vous savez que sans la santé, on ne peut rien faire. Même si on est nanti de 1001 diplômes, si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc, prenons soin de notre santé, d'où l'importance capitale de faire 3 bilans par an. C'est-à-dire en janvier, En juin et en décembre, les femmes, on a toujours ou la mammographie ou le frottis, voilà, le col de l'utérus et tout. Il faudrait que nous veillions sur ça. Amen. Il y a des objectifs matrimoniaux. Tu aspires à quoi? À te marier, mais tu vis dans le concubinage depuis longtemps. Alléluia. Tu n'avances pas, tu es là dans le concubinage. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais esclave du concubinage. Tu vis avec un homme, vous êtes ensemble, pour toi tout est bien, vous êtes arrivé, vous continuez votre vie. Mais il y a des conséquences dans le concubinage. Fiançailles, c'est quoi? Promesse de mariage, ça fait combien d'années tu es fiancé à la personne, mais le mariage ne vient jamais. À un moment donné, tu vas dire, bon écoute, ça fait 2 ans qu'on est fiancé, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire qu'il faut savoir t'imposer aussi. Amen. Le mariage traditionnel, le mariage civil, alléluia. Il y a des personnes, par exemple, bien aimées dans le Seigneur, qui font la dot. C'est vrai que dans la dot, là, j'ai remarqué quelque chose. C'est-à-dire que la dot, en fait, c'est tout le mariage. C'est devant Dieu et devant les hommes. Amen. Le mariage à la coutume. On le fait devant qui? Devant Dieu, qui est dans le ciel, et devant les hommes de la terre. Donc, on pouvait s'arrêter là. Mais comme nous vivons dans ce monde, tu es obligé de faire le mariage civil. Parce qu'il te faut une alliance. Il faut que tu portes le nom du mari. Parce que le jour où le mari meurt, au moins tu as des droits. Alléluia. Et puis, on repart encore à l'église parce que quoi, il faut que les hommes de Dieu nous imposent les mains. Mais sinon, on pouvait s'arrêter au mariage traditionnel parce que le mariage traditionnel, ça dit que la dot, c'est devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Genèse 2, verset 24, nous dit ceci, alléluia. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à ta femme, vous formez une seule chair. Mais si vous êtes fiancé là, tu es encore chez les parents, le gars est chez lui, la fille est chez elle, vous formez est-ce que vous formez une seule chair? Non, il faudrait que vous habitez ensemble. Non? Si vous n'habitez pas ensemble, qu'est-ce que vous pouvez partager? Vous ne pouvez pas être fusionnel. Parce que vous formez qu'une seule chair là, ça veut dire que tu dois être au courant de tout. Il n'y a pas de cacheterie. Ce n'est pas qu'une seule chair veut dire que faire les enfants. Non, ça veut dire que rien, il n'y a pas de faire des choses en cachette, non. Ton mari doit être au courant de ce qu'il fait, de ce que tu fais. Toi aussi, tu dois être au courant de ce que ton mari fait. Mais vous êtes fiancé, toi tu es là-bas. Non, bien, mais il faudrait ranger nos vies. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans nos vies. Hein, parce qu'on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Quelqu'un vient te voir dire, on va se fiancer. Ok, présentation, tout et tout. Ah non, vous êtes encore là. Vous n'avez aucun objectif. Ce ne sont quand même pas les parents qui vont intervenir. C'est toi qui as présenté ton gars, ton futur mari à tes parents. C'est toi qui as présenté ta future femme à tes parents. Si maintenant les parents se mêlent pour dire, vous faire pression, ils nous font pression, est-ce que c'est leur mariage? Mais toi-même, la fille, si tu veux te faire respecter, mais dis à cet homme-là que bon, ça fait quand même 1 an, qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas rester là, attendre, puis vous allez faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'es jamais marié avec le gars. Imagine-toi que vous avez déjà acheté un terrain. Vous êtes en pleine construction. Dans tout ça là, c'est dans les fiançailles. Hein? Vous n'êtes pas encore marié. Hein? Il arrive quelque chose à l'homme. Vous savez comment l'homme est sauvage. Son instinct animal là va sortir. Ils ne vont pas penser que tu as mis l'argent là pour la construction de la maison. Ils viendront tout arracher. On a vu ça, non? Donc ça ne nous parle pas, femme. Ça ne te parle pas. Donc fais attention. Fiançailles, tu es encore là 2 ans. Il n'y a rien, il n'y a pas de promesse de mariage. Il n'y a même pas de date. Dire que, bon, on s'est marié, ça fait 2 ans, non, on va se donner une date. Non, quand tu es là, c'est mon homme, je reste avec mon homme. Mais ton homme ne te respecte pas. Ton homme ne respecte même pas tes pensées. C'est qu'il ne t'honore même pas. Donc, il faut sortir de là. Amen. Donc, objectif immobilier. Donc, il faut penser à acheter un terrain. Alléluia. Peut-être que comme tu avais mis l'argent de côté, tu vas commencer tes constructions. Ou bien tu es déjà dans une maison, tu t'es dit, bon, les meubles là, ça fait trop longtemps que c'est là, je vais changer, je vais rafraîchir ma maison en remettant de la peinture, alléluia, en achetant de nouveaux meubles et tout. Amen. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il nous donne des idées. Alléluia. Enfin, Jésus nous invite à appliquer ses enseignements sur les dons faits aux pauvres. Alléluia. Donc, Matthieu 6, versets 1 à 4. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 6, versets 1 à 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Au verset 2, donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes, lorsqu'ils ont fait des dons, il faut que tout le monde sache que j'ai aidé là-bas, que j'ai donné, que ça te sert à quoi? Tu peux faire les choses dans le secret. Il faut que tout le monde sache que tu as donné. Il faut que tout le monde sache que tu as voyagé parce que tu devais faire telle chose. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu fais. Si les gens te disent que on ne voit jamais ce que tu fais, c'est pas ton problème. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans le secret. Et tu sais que ton Père te voit. Donc, ne commence pas à dire, comme les gens ne voient pas ce que je fais, je vais me montrer. Non, 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 non. Reste comme tu es. Alléluia. Philippiens 4, verset 10 à 20. Amen. Nous faisons toujours la lecture. Alléluia. Philippiens 4, versets 10 à 20, je fais la lecture. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 10 au verset 20. La parole de Dieu dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu doit se contenter de ce qu'il a. S'il y a la disette, s'il y a l'abondance, amen. Il y a la disette, amen. C'est-à-dire que tu ne mets pas ton cœur sur tout ça parce que tu sais que ton Père dans les cieux te donnera la force, par exemple, de supporter la faim, de supporter la soif. Mais toi, ton regard est seulement fixé sur lui. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit ici, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la misère. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Alléluia. Tant que vous ne faites pas l'expérience avec lui, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que je dis, recommande ton ami à l'Éternel. Il va te guider. Amen. Le verset 15 dit ceci, dans le verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Éphrodite, Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Maintenant, sur la prière. Alléluia. Sur la prière, c'est Matthieu 6, versets 5 à 15. Voici ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 6, versets 5 à 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est l'instruction sur la prière. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit au début, n'oublions pas la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Amen. Donc, la parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Vous devez prier comment? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes, lorsqu'elles prient, c'est-à-dire que même toi qui es là, tu es gêné, tu te dis que « Ah, je n'ai pas prié, je n'ai rien fait. » Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié longtemps. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, je ne sais pas prier. Comment je fais? Parce que quand j'allais dans les veillées de prière et tout, quand les femmes elles commençaient à prier, mais j'ai dit « Waouh !» Pendant 2 heures, tu ne t'arrêtes pas. « Waouh !» Et le Seigneur m'a dit ceci. Vos prières sont peut-être longues, mais elles ne sont pas objectives. J'ai dit, comment ça? Il me dit, écoute-moi ma fille. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, je prie pour ma stérilité, je voudrais enfanter. Tu as prié pour l'enfantement, n'est-ce pas? Tu as demandé la prière pour l'enfantement. Tu veux avoir un enfant, n'est-ce pas? Au lieu de te, c'est-à-dire que de rester sur ça, sur l'enfantement, prier pour ça, tu finis de prier pour l'enfantement, te voilà qui part pour le mariage, te voilà qui part pour le travail, te voilà qui part pour les voyages et tout. Le Seigneur dit, vos prières sont longues et ne sont pas objectives. J'ai dit, ah bon. Il me dit, je vous ai donné une prière. Qu'est-ce que mes disciples ont demandé? Apprends-nous à prier. Quelle prière je leur ai donnée? Le Notre Père. Il dit, vous sous-estimez le Notre Père et vous sous-estimez les psaumes. Et vous allez dans vos prières, vos longues prières qui ne sont pas objectives. Je vous dis ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc, bien-aimé, si tu dis seulement, c'est Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Tu t'arrêtes là, tu as prié. Amen. Vous voyez, Jacques 4, verset 13 à 17, dit ceci, j'ai la parole de Dieu avec respect. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Il faut toujours dire si Dieu le veut. Vous savez, souvent quand on se dit, on dit à demain, si Dieu le veut, les gens se moquent. Mais oui, mais tu te moques pourquoi? Si Dieu ne veut pas que tu vives, pourtant tu es en bonne santé et tout. Si Dieu veut que tu ne voyes pas le lendemain, mais tu ne verras pas le lendemain. Donc il faut toujours dire si Dieu le veut. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous dit sur l'amour du prochain et des ennemis. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Quand on vous dit d'aimer vos ennemis, non, pourquoi je vais aimer mon ennemi? Pourquoi? Mais on est toujours dans les pourquoi, Celui qui nous a créés nous dit que aime ton ennemi. Non, toi tu n'aimes pas ton ennemi, tu commences à raisonner. Voilà pourquoi tu n'avances pas, voilà pourquoi ta vie est comme elle est là. Donc, Matthieu 25, verset 1 à 13 dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable, c'est ce que j'ai dit, non? Sur l'amour du prochain. Non, je me suis trompée. Genèse 33. Tonton, là, tu peux me donner le verset. Ça, j'ai déjà lu. Ça, c'est pas Matthieu 25. 1 à 13. L'amour du prochain de ses ennemis, c'est pas ça. Nous allons passer à sur les rapports au sein du couple. Éphésiens 5, versets 22 à 23. Éphésiens 5, versets 22 à 23. Alléluia. Ici, les couples doivent passer par le processus pour vivre, c'est-à-dire que le baptême de repentance, alléluia, ils doivent passer par le processus. Amen. Bon, je continue. On reviendra là tout à l'heure. Donc, pour les couples, sur les rapports au sein du couple, nous avons dit Éphésiens 5, versets 22 à 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Donc, c'était Éphésiens 5, versets 22 à 23. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des femmes, lorsqu'on dit tu dois être soumise à ton mari, pense que ton mari doit te piétiner, ton mari doit te parler n'importe comment, et puis tu es là, tu acceptes. Non, être soumise à son mari, c'est tout simplement respecter son mari. C'est-à-dire que là où commence la liberté de ton mari, là, la tienne doit s'arrêter. Une femme ne peut pas se lever et insulter son mari ou parler mal à son mari parce que peut-être que dans le cadre social, je ne sais pas, tu es plus élevé que ton mari, alors tu parles à ton mari n'importe comment. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous connecter à la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu concernant les femmes. Au Éphésiens 5, verset 22 dit que « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Alléluia. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Même si tu es, selon moi, tu es à la tête d'un ministère, tu es prophétesse, tu es évangéliste et tout, et ton mari est peut-être diacre ou quoi, tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Alléluia. Donc, Dieu nous donne les conseils. Tu veux réussir ton année, il faut mettre tout ce que je lis là en pratique. Amen. Donc, je reviens sur l'amour du prochain et des ennemis. C'est dans Matthieu 25, voilà, 42 à 46, je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 25, 42 à 46. Dieu est merveilleux. Matthieu 25, 42 à 46, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Amen. Car J'ai eu faim et vous ne m'avez pas. Pardon? Ok. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas revêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Il répondit aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. » C'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ça, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes. Si tu ne connais pas une personne, elle peut mourir, elle peut avoir soif. Tu ne l'aides pas parce que tu dis, la personne n'est pas de ma famille et puis je ne suis pas obligé d'aider un étranger. Mais la parole de Dieu nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne sais pas qui est ton prochain. Ton prochain n'est pas forcément ton ami. Ton prochain n'est pas ton ami. Quelqu'un, tu peux être gabonais, tu vois un Congolais qui souffre là et tout, c'est ton prochain. Tu vois un SDF, c'est ton prochain. Ton voisin, c'est ton prochain. Mais tant que tu ne connais pas, là, tu n'aides pas. Alléluia. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Sur les rapports parents et enfants, Éphésiens 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, versets 1 à 4. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Toi qui n'obéis pas à tes parents là, tu ne peux pas vivre heureux, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas briller. Tu auras l'impression que tu brilles, mais ça va être comme un feu de paille. Tu auras l'impression que tu réussis à un moment donné, tu vas être bloqué. D'où l'importance capitale, bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que ton père est, a fait, ce que ta mère est ou ce qu'elle a fait, il reste tes parents. Le verset 2 dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si tu n'honores pas ton père ou ta mère, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas vivre longtemps. Il y a beaucoup de personnes, bien aimées dans le Seigneur, qui ont fait des grandes études et tout, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Vous allez peut-être dire que je suis en train de raconter n'importe quoi. Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Je sais de quoi je parle. Tu oublies que quand tu allais à l'école, tu habitais dans les Matiti. Hein. Mais c'est dans ces Matiti-là que tu as grandi, que tes parents ont tout fait pour te donner à manger, ont tout fait pour que tu réussisses, ont voulu te donner ce qu'ils n'ont pas eu. Se sont privés pour que tu puisses réussir, que tu ne sois pas la honte de la famille. Alléluia. Maintenant que tu as réussi, ils ont même tout fait pour t'envoyer à l'étranger. Maintenant que tu as réussi, tu ignores tes parents. Ça, c'est la chose qu'il ne faut même pas faire. Parce que lorsque tu reviens de l'étranger, tu descends chez tes parents. Mais toi, tu ne descends pas chez tes parents parce que tu dis, non, moi, je ne peux pas retourner là où... Non, non, non. Mais tu oublies que tu as grandi là. Donc, tu t'entends avec des amis et tout, et tout, et tout. On te cherche là-bas. C'est vraiment un studio et tout. Tu descends dans le studio. Et combien de jours tu es là, tu ne vas même pas voir tes parents. Les parents entendent seulement, oh, on a vu, je sais pas moi, Albert, il est rentré. Oh, comment ça, Albert est rentré? Il serait venu à la maison. Regarde un peu. Tu as vu ça? Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, Vous qui avez encore vos parents là, rendez grâce à Dieu de ceux qui sont vivants. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller rendre visite à ton père ou à ta mère? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'appeler? Non, tu es tellement occupé, mais tu oublies que le travail que tu as là, c'est grâce à eux. Évidemment, c'est Dieu, mais c'est grâce à eux parce que nos parents sur la terre sont nos dieux. Mais tu ne vas pas les voir. Et tu penses que tu vas réussir dans ta vie. À chaque fois que je fais des lives, je rappelle cela aux enfants qui pensent qu'ils sont arrivés. Non, sans la bénédiction de tes parents, mon frère, ma soeur, tu es vide. Sans la bénédiction de tes parents, tu es vide. Alléluia. Et donc, il y a certains enfants qui ne calculent plus les parents. Ils trouvent du travail, ils sont arrivés. Mais il y a d'autres, malgré leur diplôme, déposent les dossiers partout. On ne les appelle même pas. Ou bien on leur dit, vous avez le profil demandé, on vous appellera. On ne vous appelle pas. Et tu ne te dis pas, ah, il faut que j'aille voir un peu mes parents. Tout ce qu'ils ont investi là, sur moi. Et puis je ne travaille pas. Je ne leur donne rien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quel que soit l'endroit où habitent tes parents, tu as le devoir d'aller les voir. Ils ont pris soin de toi, à toi maintenant de prendre soin d'eux. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas si tu es fâché avec tes parents. Demande pardon. Je ne sais pas si tu es bloqué et tu dis, mon père est sorcier, ma mère est sorcière. Non, personne n'est sorcier. Le sorcier dans tout ça, c'est toi. Alléluia. Je prie que le pardon soit ton partage. Je prie vraiment que tu prennes cette décision d'aller voir tes parents et puis c'est-à-dire que de te réconcilier avec tes parents. Parce que sans eux, tu n'es rien. Amen. Et le verset 4 dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Les enfants ont leur part à faire. Les parents aussi ont leur part à faire. Alléluia. Il y a des parents, une famille, par exemple, vous êtes 5 enfants dans la famille. Nous recevons la même éducation, mais nous avons des caractères différents. Et il y a des parents dans tout ça qui trouvent le moyen de comparer les enfants. Ça fait très, très mal. Alléluia. Il y a peut-être un qui est plus intelligent que les autres. Il va être le centre d'intérêt. Dès qu'un autre frère fait quelque chose, oh, prends l'exemple de ton frère, tu vas à l'école, tu es nul, c'est-à-dire que tu n'amènes jamais de bons résultats et tu me demandes toujours tout. Une fois comme ça, deux fois, trois fois. Vous ne savez pas ce que vous créez dans la famille. La haine entre les enfants, la jalousie entre les enfants, ça peut aller jusqu'au meurtre. Ne dites pas que j'exagère, je sais de quoi je parle. Un enfant irrité est très difficile à ramener sur le droit chemin. Un enfant à qui tu dis tous les jours, « Ah, va là-bas, tu es bête. Oh, va là-bas, tu es bête. » Il va finir par comprendre qu'il est bête. Il fera les choses que... C'est-à-dire que vous allez le citer tous les jours, mais il ne va faire aucun effort. On m'a dit que je suis bête, et bien je suis bête. Vous voyez un peu ce que vous avez fait de l'enfant? Ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, seul, on ne peut rien faire. Je vous ai dit que recommandons cette année, notre année au Seigneur. Parce que toi, la mère, tu dois avoir les paroles qu'il faut pour adoucir l'atmosphère. Dès que les enfants sont en train de se battre, tout machin, en principe, ils ne devraient même pas avoir de bagarre. Mais pourquoi il y a bagarre? Parce que ben, les parents viennent mettre la zizanie entre les enfants. Les parents viennent comparer. T'es le plus intelligent que toi. Oh, les gars, comment tu es vilain? Mais tu oublies que c'est le fruit de tes entrailles que tu insultes. J'aimerais dire à une femme que tes genoux, tu dois les fléchir. Parce que 5 enfants que tu as éduqués, qui ont reçu la même éducation, mais ils ont des caractères différents. Seul, sans Dieu, tu ne peux pas. Fléchis tes genoux pour que de ta bouche ne sortent jamais des injures, mais des mots doux, des mots d'amour pour tes enfants. Si toi, parent, tu commences à dire à tes, tu vas à côté chez les voisins, oh, ma fille là, elle, sa vie là, c'est seulement les hommes et tout. Mais comment veux-tu qu'on considère tes enfants, ta fille? Elle ne sera pas respectée. Elle sera la risée de tout le monde. Au point où même les mamans diront à leur fille, oh, je ne veux pas que vous marchiez avec celle-là. Même sa mère dit que c'est une fille qui est volage. Est-ce que vous voyez que c'est, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Le fruit de tes entrailles, tu es la première à critiquer tes enfants. C'est-à-dire que tu livres tes enfants. Non. Dieu nous parle ce soir. Alléluia. Il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé des dons faits aux pauvres. Il nous a parlé sur la prière, sur l'amour du prochain, sur les rapports au sein du couple, sur les rapports parents et enfants. Alléluia. Ça fait mal de voir des enfants. Vous allez rendre visite aux amis. Il y a des enfants qui sont joyeux. Et d'autres qui ne le sont pas. Et quand tu vas demander, mais pourquoi? Oh, mais lui-là, il peut toujours rester comme ça, il peut toujours attirer l'attention des gens. C'est pas qu'il veut attirer l'attention des gens. Tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a des enfants qui sont forts de caractère, qui vont supporter. Bon, maman me compare, ça, c'est son problème. Mais il y a d'autres. Mais vous savez que vous irritez l'enfant. Comment tu vas insulter ton enfant? Tu es bête, tu es vilain, tu es bête, tu es vilain. Avant là-bas, tu ne vaux rien. Ce que tu as semé là, c'est ce que tu vas raconter. Tu vas raconter un enfant qui ne vaut rien. Tu vas rendre ton enfant, mais ça dit que tout ce qu'il fait, il pense que les choses mauvaises. Donc, ça fait de lui une vilaine personne. Alléluia. Que Dieu nous aide à être des parents aimants. Et quand il y a aussi le père à la maison qui est démissionnaire, tout retombe sur la femme. Eh bien, les personnes qui n'ont pas Dieu vont passer, les femmes qui n'ont pas Dieu vont passer tout leur temps à sortir que des injures de leur bouche. Pourquoi? Parce qu'elle est délaissée par le mari. C'est elle qui a la responsabilité de tous les enfants. Et donc, elle ne peut pas supporter. Donc, parents aussi, hommes aussi, soutenez vos femmes. Alléluia. Donc, père, évite d'irriter tes enfants par des comparaisons, par des comportements. Vous savez, l'absence d'un parent peut irriter un enfant. Jamais il voit la présence paternelle, c'est toujours la mère. Ça peut irriter. Il est où mon père? Mais pourquoi papa n'est jamais là? Et l'enfant va développer un caractère vraiment très désagréable vis-à-vis de foi de la mère. Vis-à-vis de ses frères et sœurs. Vous voyez un peu les conséquences. Soyons des personnes amour. Ça veut dire que consacrons notre famille à Dieu. Et toi, la femme, tout repose aussi sur toi. Fléchis tes genoux et dis au Seigneur de te donner la force et le courage de supporter tous tes enfants qui chacun a un caractère différent. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la finalité est de sortir de l'obscurité ou des ténèbres. Donc, les ténèbres, c'est l'absence vraiment de lumière, l'absence absolue de lumière. Donc, la finalité, c'est de sortir de ça, de l'obscurité et des ténèbres, et d'accepter que la lumière de Jésus te pénètre. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combats, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas malade, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des difficultés, mais c'est qu'avec Jésus, tu pourras traverser ces difficultés, tu pourras combattre, c'est même pas toi qui combattras, c'est lui qui combattra pour lui, c'est-à-dire que tu as cette protection spirituelle. Mais si tu veux faire tout de toi-même, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Tu n'y arriveras pas. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Laisse-toi guider par Jésus qui est la lumière. Éphésiens 5, verset 1 à 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Éphésiens 5, verset 1 à 10. Pardon. Verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu avec respect. Éphésiens 5, verset 1 à 10, dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Est-ce qu'un temps soit plus, nous pouvons imiter, bien-aimés dans le Seigneur Dieu. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parole du Seigneur. Amen. Je vais continuer la lecture. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, ce sont les conseils qui nous sont donnés, alléluia, de la part de Dieu, pour pouvoir réussir une bonne année. Amen. Donc, si tu ne marches pas, tu ne mets pas en pratique cette portion d'écriture que je viens de lire, ne t'attends pas à avoir une vie qui ne confesse pas le nom de Dieu. C'est-à-dire que ne te dis pas que je vais réussir, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir, ne t'attends pas à avoir la faveur de Dieu dans ta vie, ne t'attends pas, c'est pas moi, tu ne feras pas des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que tu as voulu marcher en mode sens, au lieu de marcher en mode foi. C'est-à-dire que tu seras toujours pressé d'acquérir quelque chose alors que ce n'est peut-être pas le moment. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas jouer à ton intelligence, tu vas jouer à tes relations et puis tu vas échouer lamentablement. Amen. Donc, il y a un autre verset, Éphésiens 6, verset 10 à 18. Éphésiens 6, verset 10 à 18, la parole de Dieu dit ceci. Au reste, Éphésiens 6, verset 10 à 18, voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez donc les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme Ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia! Ah, revêtons-nous les armes du chrétien pour pouvoir réussir. Que cette année soit une année de réussite. Elle est possible. Alléluia. Il est possible de réussir cette année. Comment? Mais en mettant la parole de Dieu en pratique. Il y a eu beaucoup de lectures. J'espère que vous avez noté et vous allez aller relire ces versets. Ça va vous aider pour votre marche avec Dieu. Ça va vous aider dans vos décisions à prendre, ça va vous aider dans l'éducation de vos enfants, ça va vous aider dans votre couple, dans votre lieu de travail. Il faudrait que nous soyons des personnes exemplaires. Il faudrait que nous soyons, c'est-à-dire que faire la différence partout où nous passons. Mais si nous négligeons la parole de Dieu, nous ne la lisons pas, mais c'est clair que nous allons fauter, nous allons échouer, nous allons tomber. Amen. Donc, ce sont quelques conseils pour aborder l'année 2026. Comme je disais au début, nous avons fêté, nous avons dansé. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Amen. Il faut sortir de la fête parce qu'il y a encore beaucoup qui sont en train de fêter. C'est pas interdit de fêter, mais on avance. On avance. L'année a 365 jours. Et il faudrait qu'en 365 jours, là, les objectifs que tu t'es fixés se réalisent. Amen. Donc, soyons concentrés. La parole de Dieu, elle a été claire pour tout le monde. Et j'espère que nous aurons de grands témoignages en fin d'année 2026. Alléluia. Parce qu'il n'est pas possible d'échouer avec Dieu. C'est quasiment impossible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, c'est la réussite. Avec Dieu, c'est le succès assuré. Alléluia. Avec Dieu, nous serons toujours vainqueurs. Amen. Donc, comme je l'ai dit au début, le ministère des enfants perdus et mon mentor Alain Igumba vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2026. Mettez ces conseils en pratique. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, tout ce que vous avez demandé à Dieu, même si la réponse tarde, attends-la, comme dit Habakkuk, elle s'accomplira certainement. Dieu ne nous donne pas toujours les choses qu'on veut, hein, et au moment où on veut. Non, il nous donne ce qui est bien et en son temps, le temps kairos. Donc, c'est le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Alléluia. Donc, je suis le prophète Jérémie, mandaté par l'Éternel des armées ce soir, qui vous a parlé du ministère des enfants perdus. Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Je vais m'arrêter par là. Je bénis l'Éternel pour cette force, cette opportunité qu'il m'a encore donnée cet après-midi de parler de sa part. Et je prie vraiment que ce message puisse venir réveiller les consciences de mes frères et sœurs. Et que j'aimerais que... ma prière pour vous, c'est que vous fassiez totalement confiance à Dieu. Je veux dire nous, que nous fassions totalement confiance à Dieu. En Dieu, parce que Dieu n'échoue jamais. Et avec lui, on fait des exploits, avec lui, on avance, avec lui, on fait des choses extraordinaires. Alléluia. Tu veux atteindre le surnaturel, mais marche avec Dieu et marche selon lui et fais ce qu'il te demande de faire. Amen. Dieu est merveilleux. Alors que Dieu vous bénisse grandement. Et puis on se dit certainement à dimanche par la grâce de Dieu. Si Dieu le veut. Amen.